Jacques de Scorail, bonjour, bienvenue sur notre antenne de Radio Maria France pour une bonne nouvelle que vous annoncez à nos auditeurs et auditrices. Heureux comme un chrétien au travail, c'est possible, dites-vous.
Bonjour Olivier.
Je vous laisse vous présenter succinctement à nos auditeurs.
Oui, merci. Donc je suis le directeur d'Ecclesia RH, qui est une plateforme de services RH pour les institutions chrétiennes, voilà, que j'ai créée il y a presque 20 ans maintenant. Après un parcours dans les ressources humaines, j'ai démarré dans un cabinet anglo-saxon de conseil en gestion des ressources humaines et je mets mes savoir-faire, enfin je devrais dire nos savoir-faire, puisque nous sommes une équipe de 15 personnes au service des institutions chrétiennes, que ce soit des diocèses, des congrégations, des établissements scolaires, en termes de recrutement, accompagnement stratégique, audit et puis également des accompagnements personnels. Et c'est dans le cadre de mes fonctions que j'ai été sollicité par Arthège pour écrire un livre sur justement la foi et le travail.
Et oui, c'est possible parce que beaucoup ont baissé les bras autour de vous, c'est ça?
Alors en fait, ce qui est très frappant quand on parle de ce sujet-là, c'est que pour beaucoup, on a une image du travail centrée sur l'Ancien Testament, tu travailleras la sueur de ton front, comme si c'était une punition qui devait rester, qui était éternelle, voilà, comme un enfer. Et donc on a une vision du travail qui est souvent un peu triste. Et je voulais justement, à travers ce livre, apporter le témoignage que la foi était au contraire quelque chose qui ouvre, le Christ est venu dans le Nouveau Testament venir nous sauver au cœur de notre travail et montrer combien le Seigneur est sauveur de nos vies professionnelles également.
Et que c'est le sauveur que nous rencontrons aussi dans notre travail, hein, au travers des apparences du collègue, du patron, mais c'est le même agir, n'est-ce pas? C'est la même volonté, c'est la même charité qui est à l'œuvre.
Oui, la providence agit indépendamment des murs et des obstacles que nous pouvons mettre. L'Esprit Saint agit dans les cœurs. L'Esprit Saint est omniprésent, il est acteur, il est co-créateur avec nous de nos vies professionnelles. Et très souvent, c'est vrai que nos réalités quotidiennes font que l'on a du mal à imaginer que ce soit possible et qu'il soit vraiment là quand on a en face de nous un patron toxique, un collaborateur qui ouvre les fenêtres alors que je voudrais les fermer, un collaborateur qui ne rend pas le travail comme on voudrait qu'il soit, enfin, etc., etc. Donc on a de multiples occasions de considérer que le travail est plutôt un enfer qu'un lieu de bonheur. Et donc ce que je voulais montrer dans ce livre, ce que je souhaite montrer, c'est que le travail peut être aussi une source de joie, de fécondité, de plénitude, un lieu où on cultive sa foi, où elle grandit par les relations que nous avons et par cet abandon aussi à la providence dans le quotidien de nos vies.
Et avec une certaine souplesse qui ne s'acquiert que par l'expérience ou bien que par les soins d'un ancien dont vous jouez le rôle, c'est-à-dire quelqu'un qui va peut-être éviter les panneaux dans lesquels on tombe assez fréquemment, comme tout débutant, ou bien qui va donner son tour de main, ses outils pour traverser sans trop de crispation, sans trop de détresse artificieuse, ce qui n'est au fond qu'un chemin de sanctification.
Alors j'aime bien que vous utilisiez le mot de sagesse parce que je pense que le chrétien est là pour apporter de la sagesse dans ce monde professionnel qui court derrière la croissance, qui va consommer à tout azimut, qui va pas toujours, voilà, qui va chercher des produits partout dans le monde pour les ramener en France ou en Europe, ou qui va envoyer des produits d'Europe. Voilà, je connais quelqu'un qui envoie des poussins qui naissent en France, qui partent en Chine. Bon, enfin voilà, et tout ça passe par avion. Bon, donc la sagesse est un don de l'esprit, et je pense qu'on a à tout à gagner à se mettre vraiment à l'écoute de l'Esprit Saint pour vivre de ces dons de l'Esprit au cœur de notre travail.
Et dans votre ouvrage, vous êtes un petit peu comme, disons, dans le livre des demeures, ça veut dire il y a des cas pratiques, des étapes, il y a une progression, il y a comme une initiation avec certaines figures qui viennent comme ça rythmer avec ce qui est juste, ce qui l'est moins.
Alors, on peut effectivement le dire, c'est-à-dire que ce qui me frappe beaucoup quand on parle, je prends là pour référence mon univers professionnel précédent, qui était dans un établissement public, au moins dans l'avant-dernière expérience professionnelle, et au cours d'un échange avec une de mes collègues, elle me disait, mais je comprends pas qu'on puisse être chrétien, parce que quand on est chrétien, ça réduit notre champ, ça réduit les possibles, ça nous met des barrières, alors que moi, au contraire, je considérais que ça ouvre l'horizon, puisqu'on rajoute l'Esprit Saint, on rajoute les anges gardien, on rajoute plein de monde dans nos relations de travail. Et donc la foi est plutôt un lieu d'ouverture. Et ça, c'est pas souvent compris. Donc, du coup, j'ai voulu montrer, à travers une vingtaine de situations professionnelles extrêmement concrètes, comment, déjà, sur le plan humain, on avait à les vivre, parce qu'en tant que chrétien, on est attendu d'abord dans nos compétences professionnelles. Et puis ensuite, il y a cette dimension qui peut intervenir, mais d'abord dans ces compétences professionnelles. Donc, je voulais montrer à travers des situations professionnelles très concrètes combien le Seigneur peut nous rejoindre au cœur de chacune d'elles. Par exemple, le premier chapitre va s'appeler « Le premier jour de mon premier job ». Ben voilà, je rentre dans cette entreprise, j'arrive, j'ai signé mon contrat. Qu'est-ce qui va se passer dans cette première journée ou ces premières semaines de travail? Et comment le Christ peut venir au cœur de ces premières semaines, m'apporter son propre éclairage et m'inspirer dans ce que j'ai à faire? Alors après, il y a d'autres situations. Je découvre que j'ai un chef. Malheureusement, ça arrive pour beaucoup. Et donc, cette relation avec ce chef, elle est plus ou moins facile. Et donc, comment là aussi, d'abord sur le plan humain, je peux m'y prendre pour instaurer de bonnes et saines relations avec mon chef, mais également, sur le plan chrétien, comment je peux vivre cette relation au chef. Et puis après, on va comme ça avancer de chapitre en chapitre avec mon entreprise, une pétaudière, parce que ben, je découvre que finalement, les choses ne se font pas aussi bien que je le voudrais. Et donc là aussi, comment est-ce que je peux faire? On va parler des conflits, on va parler de l'expatriation, on va parler voilà, donc des situations très, très concrètes. Et puis on va terminer par finalement, en tant que chrétien, qu'est-ce que je peux faire de plus. Donc c'est un des derniers chapitres où on va faire une méditation du credo centrée sur le travail pour montrer que ben oui, je peux croire en Dieu au cœur de mon travail. Et donc on a comme ça tout un itinéraire qui est très concret, illustré pour chaque chapitre d'une situation professionnelle pour bien l'ancrer dans le réel, avec des apports très concrets pour aider à comprendre un peu ce que l'on peut faire sur le plan déjà de son travail, mais à ça rajouter systématiquement le regard chrétien.
Et ce regard chrétien le plus authentique, en tout cas, se définit par une obéissance intelligente, mais un goût quand même de la hiérarchie, de l'autorité, ce qui est quand même particulièrement attaqué hein, à notre époque. Est-ce que ce n'est pas une des difficultés majeures dans le monde du travail ?
Alors là, vous venez d'employer quelques gros mots. Hein. Donc sur Radio Maria, c'est pas terrible de dire les gros mots, parce que quand vous parlez d'autorité, de hiérarchie, voilà, d'obéissance, c'est déjà trois mots qui, dans le monde d'aujourd'hui, écorchent l'oreille. Ils sont pas toujours bien compris. Pourtant, quand on y regarde de près, on se rend compte que ces mots sont très riches. Et moi, j'aime bien revenir à l'étymologie des mots parce qu'ils nous enseignent sur le sens réel des choses. Donc, si vous prenez par exemple l'obéissance, qui veut dire prêter l'oreille, hein, du coup, quand on commence à se dire, ben voilà, l'obéissance, c'est-à-dire prêter l'oreille, c'est-à-dire est-ce que je suis prêt à prêter mon oreille à ce que me dit l'autre, qu'il soit patron, qu'il soit collaborateur. Voilà. Et donc, ça, c'est toute la notion d'écoute. D'écoute réelle, d'écoute active, vous voyez, donc on pourrait tirer le fil un peu plus loin. Si je prends le mot autorité, ça vient de gérer, accroître, augmenter, alors il y a plein d'auditeurs qui doivent savoir ça par cœur, mais c'est aussi bon de rappeler qu'un responsable hiérarchique, il fait autorité en sens où il fait progresser, il fait croître, ou qu'un collaborateur, il exerce aussi son autorité à travers son métier, par sa compétence, par son savoir-faire, parce qu'il fait croître aussi ses collègues, il fait croître l'entreprise à travers son apport. Donc on voit déjà dans ces mots qu'il y a quelque chose de plus grand encore. Et si vous prenez la hiérarchie, c'est la même chose. La hiérarchie, c'est l'ordre sacré des choses. Et donc, on sait que dans un organisme vivant, quand il n'y a pas de hiérarchie, il y a une anarchie. Et l'anarchie, ben, si on prend le corps humain, on sait que l'anarchie des cellules, ben, c'est le cancer. Et dans une entreprise, quand il y a une anarchie sur le plan des circuits hiérarchiques, eh ben, effectivement, ça devient vite un enfer aussi, un cancer dans l'entreprise, parce qu'il y a des hiérarchies parallèles qui se mettent en œuvre. Et du coup, l'action ne peut plus être conduite comme il faut. Et donc, ces trois mots que vous avez cités sont des mots qui sont très beaux si on les comprend bien et si on les vit comme on doit les vivre, c'est-à-dire au sens propre du terme et avec toute leur recherche et non pas à leur sens figuré ou transformé.
J'aimerais vous poser une autre question. Comment s'unifier? Parce que la manie du développement personnel ou de séparer les choses, ça veut dire qu'il y aurait l'outillage pour vivre une vie conjugale ou un outillage pour vivre une vie au travail. Et comment unifier tout ça avec quelqu'un qui en somme, cherche réellement l'amour de Dieu et qui cherche réellement à s'unifier dans sa volonté, c'est-à-dire devenir saint?
Alors, beaucoup de choses à dire. Cette unité, elle provient d'un alignement, on va dire, entre notre vocation, notre mission et notre profession. Alors, je vais m'expliquer. Donc, notre vocation, on a tous une vocation qui consiste à aimer et à être aimé. Aimer de Dieu et aimer Dieu, c'est notre vocation à tous. Notre mission, ça va être de de partager cet amour qui est en nous. L'amour est dynamique, et donc la vocation à aimer est dynamique et pousse à la mission et à partager ce que l'on aime. Et ce que l'on aime le plus au fond de nous-mêmes en tant que chrétien, ben c'est le Christ. Et ça nous amène à la profession qui va nous conduire à professer de cet amour de Dieu d'une manière incarnée dans un métier. Et donc, c'est dans ce métier que je vais pouvoir professer ce qui m'habite, à la fois en termes de compétences et de savoir-faire, mais aussi peut-être sur le plan des valeurs. Et là, ça ouvre un autre champ. Et donc, pour revenir à l'unité, on voit bien que, par exemple, un prêtre, il va être dans une profession qui va être très, très proche de sa vocation. Et donc, ça va être très unifiant. Et puis, il y a des métiers qui sont beaucoup plus éloignés en termes de profession, de la vocation, parce que dans mon quotidien, si je suis toute la journée derrière un ordinateur, professer à mon ordinateur qui est en face de moi que Dieu est amour, c'est plus difficile, et donc c'est peut-être moins unifiant par rapport à cette dimension d'amour qui est présente dans mon cœur. Et donc, on voit bien que le choix des métiers va contribuer également à cette unité, mais aussi cette présence de Dieu en moi. C'est-à-dire que si je n'écoute pas ce besoin d'amour qui frappe à ma porte, et cet amour qui est en moi, si je n'y prends garde, ou si je l'éteins, de fait, ma mission va être plus pauvre, et ma profession va être plus pauvre aussi. Et donc, cette unité renvoie à un itinéraire personnel de rencontre du Christ, source de l'amour en moi, qui va pouvoir se déployer sur tout mon agir et sur tout ce que je fais. Et là, ça nous ramène, nous en tant que chrétiens, à être missionnaires au cœur de ce travail pour faire découvrir à ceux avec qui nous travaillons combien ils sont aimés de Dieu, ou combien ils portent de l'amour en eux, si on ne veut pas aller sur l'explicite, et combien cet amour qui est en eux, il pourrait le faire grandir au profit des autres.
Et alors cet amour va grandir par et à travers la croix dans la vie d'un chrétien. Comment cette croix se manifeste-t-elle dans le monde du travail et à quel point certains refusent ou font défection devant cette croix qui se présente certainement sous certains aspects dans le milieu propre du travail?
Alors, c'est sûr que chacun dans son travail, à un moment ou un autre de notre vie, on a expérimenté la croix du Christ. Si le Christ vit en nous, de ce fait-là, nous vivons toutes les phases de la vie du Seigneur dans notre vie. À un moment donné, on va être sur la croix, à un moment donné, on va être dans la résurrection, à un autre moment, on va être dans la joie de la scène. Enfin, on est christique, on est personne vivante, enfin Christ vivant en nous, dans ce monde. Et donc, cette croix, elle fait partie de notre vie de chrétien, et à un moment donné, on va y être, on va se retrouver face à elle, et même on va la voir sur le dos. Et donc, dans vos auditeurs, peut-être que certains d'entre eux, aujourd'hui, sont sous le poids de la croix, et entendent peut-être aussi mon propos avec difficulté, parce que quand on porte la croix, on a du mal à imaginer la résurrection. Et on peut même porter une croix pendant des années et des années, et donc la résurrection peut nous paraître bien lointaine. Mais elle est promise, et la vie des chrétiens que nous côtoyons, toute la chrétienté depuis la venue de Jésus-Christ, montre combien on fait l'expérience de cette croix qui a été salvatrice, qui nous a sauvés et qui nous a permis de rentrer dans cette résurrection. Et donc il y a toute une spiritualité du travail qui doit accepter cette croix, non pas comme étant quelque chose d'enfermant, mais qui est un passage pour une plus grande libération, une plus grande découverte de nous-mêmes et une découverte du Seigneur en nous. Donc je pourrais développer un peu, Olivier, mais à vous de me dire, voilà, si vous voulez, dans quel sens vous voulez que j'aille autour de cette méditation sur la croix qui peut être quelque chose d'assez vaste.
Est-ce que vous avez, pour rester dans ce thème de la croix, est-ce que vous avez remarqué dans votre expérience à quel point certaines natures douées à certains endroits étaient particulièrement contrariées, ce qui s'appelle dans la Bible couper les jarrets aux chevaux? Ça veut dire qu'il y a une tendance quand même à l'horizontalité dans la nature humaine, à aller dans ses facilités, et ce qui nous barre l'accès à l'intériorité, à une véritable fécondité. Est-ce que vous avez remarqué ces modes de conduire assez déroutants de l'Esprit de Dieu?
Oui, les obstacles nous construisent. Alors, effectivement, les obstacles nous construisent parce qu'ils nous poussent ils nous renvoient au fond de nous-mêmes, à aller chercher les ressources intérieures. Et dans ces ressources intérieures, ben, il y a justement la présence de l'Esprit Saint dont on parlait tout à l'heure. Donc, ça nous amène à un questionnement. C'est ce que moi j'appelle, enfin, dans les dons d'esprit, le premier don, c'est le don de crainte. Et donc, toutes ces craintes qui m'habitent, qui font que je ne sais pas s'il faut que j'aille plus loin, je ne sais pas trop comment je m'y prendre, etc. Qui rendent mon travail voilà, plus compliqué, ben, il y a l'Esprit Saint qui va être au milieu de ces craintes et qui va aussi me rejoindre pour me pousser à avancer, pour me pousser à m'interroger, à renforcer mon professionnalisme, ne pas être médiocre. Un chrétien ne peut pas être médiocre. Un chrétien, il doit être, on parlait de sainteté tout à l'heure, mais il doit être exemplaire dans son travail. Et donc, il doit chercher à développer ses compétences, il doit chercher à aller plus loin. Et quand on bute, un chercheur qui bute, qui n'arrive pas à trouver, ben, ça le renforce, il va continuer à chercher. Je connais quelqu'un qui est accordeur de piano, et quand il travaille sur des pianos, si ça, voilà, s'il n'arrive pas à résoudre la difficulté, il va travailler pendant des heures pour essayer de régler son piano. Donc derrière, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de. Si on n'a pas cet amour qui est en nous pour chercher à bien faire les choses, ben on va lâcher prise. Et donc ça renvoie sur cette nécessité de se laisser faire par l'Esprit Saint pour qu'il nous remplisse d'amour, pour que dans ce travail, ben, on fasse les choses. En allant au bout des choses, en allant le plus à fond possible pour vraiment correspondre pleinement à ce qui est attendu de nous.
Alors, votre livre s'appelle Heureux comme un chrétien au travail. Et le chrétien, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, le chrétien lui aussi a l'esprit du monde sans le savoir. Et l'esprit du monde est plutôt dans une voie de moindre effort, de facilité, de vacances, de consommation et de refus de tout ce qui porte la croix, c'est-à-dire le devoir, le sacrifice, la fidélité. Est-ce que vous avez remarqué, vous aussi, cet écueil majeur, ça veut dire un manque de conscience professionnelle ou une certaine facilité à
Alors,
reculer devant l'effort?
oui, alors moi je ne placerai pas trop sur ce plan-là parce qu'on va quand même sur la Lune, on va envoyer des sondes dans l'espace, on va faire des choses absolument étonnantes qui sont quand même le signe d'une certaine conscience professionnelle. On ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait, on ne pourrait pas se parler aujourd'hui par micro et s'entendre sur les ondes s'il n'y avait pas des gens qui faisaient leur travail avec conscience professionnelle. Je pense que la question elle est plus sur les intérêts, c'est-à-dire quels sont mes intérêts, qu'est-ce que je cherche. Et donc aujourd'hui, pour moi, je pense qu'on est très souvent très centré sur ses propres intérêts et exclusivement ses intérêts. Et à ce titre-là, on va mettre en œuvre un certain nombre d'actes professionnels qui vont principalement servir mes propres intérêts avant de servir les intérêts de mes collègues ou servir les intérêts de l'entreprise qui nous paraissent beaucoup plus lointains et beaucoup moins intéressants. Et là, il y a une sorte de priorisation qui fait que la conscience du bien collectif que représente l'entreprise passe souvent au second plan, voire très loin derrière mes propres intérêts personnels.
Alors, nous allons avoir tout à l'heure un témoignage de prêtre sur notre antenne. Je me souviens d'avoir reçu le témoignage d'un prêtre qui, c'était à l'époque où les prêtres travaillaient dans les usines, et travail rugueux, âpre, difficile, et il s'est mis à prier sans cesse, c'est-à-dire des prières très brèves, mais continues, du matin jusqu'au soir, et durant ces temps de travail, durant les intervalles que laisse le travail, et Dieu sait qu'il y en a. Et il se trouvait singulièrement allégé, singulièrement heureux, pour reprendre votre titre, parce qu'il était en présence de ce levain, de ce sel qui illuminait tout et qui était en fait un accroissement de la présence de l'Esprit Saint dans son cœur. Est-ce que vous parlez de cet art de la prière continue dans votre livre pour traverser toutes les bévues, toutes les épreuves et marcher sur le lion et le dragon, comme il est dit dans les psaumes?
C'est essentiel, c'est-à-dire que c'est même le fondement, c'est-à-dire que la prière, c'est le lieu du dialogue avec Dieu. Donc, s'il n'y a pas de prière, ben, il n'y a pas de vie chrétienne. Donc, la prière, elle est vraiment fondamentale, elle est essentielle. Il y a la philolocalie avec le Seigneur Jésus Sauveur, prends pitié de moi pécheur. Seigneur Jésus Sauveur, prends pitié de moi pécheur. Je vais pouvoir répéter, moi, dans une période de ma vie, je l'ai répété inlassablement et ça me mettait en présence du Seigneur. Donc ça, c'est essentiel. L'oraison, c'est essentiel. La pratique régulière de l'Eucharistie, c'est essentiel pour entretenir ce dialogue avec le Seigneur, cette proximité avec lui. Le Seigneur est ton ami. Jésus est mon ami. Moi, je rêverais, enfin, je le dis comme ça, mais si je croisais dans la rue ce Seigneur, je crois que je serais un peu plus effrayé, mais je rêverais de le croiser dans la rue et de marcher avec lui, et puis qu'il m'explique un peu, parce qu'on a tellement de choses qu'on ne comprend pas dans ce monde qu'on a besoin de lui tirer la tunique et qu'il lui dise bah, « Attends, comment tu laisses faire tout ça ?» quoi. Et voilà, donc on a une proximité essentielle à avoir avec le Seigneur. Donc la prière est vraiment la clé de voûte. Et si on s'éloigne de la source, hein, c'est ce psaume qui nous dit que l'arbre est planté à côté de la source, et c'est la condition de la fécondité. Et donc, moi, je constate que quand dans mes relations de travail, je suis plus tendu, ça m'arrive malheureusement souvent en tant que petit entrepreneur, je regarde la qualité de ma vie de prière, je me dis, tiens, là, tu vois, tu es en écart, ça fait longtemps que tu n'as pas que ta vie de prière, elle a diminué en termes de temps. Donc, je pense que c'est vraiment une donnée essentielle pour notre fécondité.
Et est-ce que vous pensez aussi que la bénédiction, parce que le murmure ou la plainte, il est dit dans la règle de Saint Benoît que personne ne s'attende à recevoir une récompense s'il fait son devoir en se plaignant, c'est dans le murmure, il est dit dans la règle. L'opposé du murmure, de la plainte, c'est la bénédiction. Est-ce que vous parlez dans votre ouvrage de la puissance de la bénédiction, de bénir ses collègues, de bénir l'autorité légitime de les...
Alors oui, et alors je n'ai pas répondu complètement à la question précédente, c'est-à-dire que dans mon livre, effectivement, à la fin de chaque chapitre, je vais aborder la dimension de la foi sous trois angles. La doctrine sociale de l'Église, pour ceux qui sont plus intellectuels et qui ont besoin d'avoir des repères de principes d'action. Sous l'angle catéchétique, en disant finalement, dans la vie chrétienne, si je prends les sacrements, etc., quel est le lien avec la situation que j'ai décrite précédemment. Et enfin, la prière, quelle est la dimension, enfin l'aspect spirituel, comment est-ce que je peux prier sur la situation que j'ai évoquée dans le chapitre. Donc dans chaque chapitre-là, on montre ces trois niveaux qui ont chacun leur impact. Voilà, alors du coup, j'en ai oublié votre question.
Il y en a une autre qui arrive, Jacques de Scorail. Voilà. Maintenant, si vous retournez devant votre carrière, devant ce que vous avez accompli, quel est le bon filon, la bonne adresse, le coup de main, comme je le disais au début, que vous pouvez donner à des nouveaux, à des novis, comme on dit ici en Provence?
J'ai envie de dire, plonge dans la piscine du Christ, quoi. N'hésite pas. Surtout, n'hésite pas. Tu verras, tu seras surpris. La température va te paraître peut-être un peu froide au départ, mais c'est comme toujours, au bout de quelques minutes, on prend l'eau du bain, notre corps se met à la température de l'eau, et puis là, on peut y aller, on peut nager, on est tout heureux de cette unité, justement, avec le Christ qui nous embrasse complètement et que nous embrassons complètement. Et donc, je pense que, voilà, ça, c'est le fruit de ma vie, c'est que je me suis reconverti par le travail. J'ai eu cette grâce d'être touché dans mon travail par le Seigneur, et ça a renversé complètement mon regard, et ça m'a ouvert à d'autres perspectives, et je peux dire que le Christ agit avec moi. J'ai mille exemples que je pourrais donner où je vois bien l'action du Seigneur dans ce que je fais.
Alors peut-être pas mille, mais en tout cas peut-être un ou deux pour conclure cette émission, mais permettez-moi de compléter ce que vous avez dit pour ceux qui débutent, qui plongent et qui se rassurent aussi, hein, parce qu'ils peuvent peser une tonne, l'eau les portera quand même.
Oui, on est comme dans la mer morte, quoi. On est tranquille.
Hein. On est tranquille.
Voilà. On est porté. Mais l'autre point, le deuxième point, ce serait de dire développe tes compétences. Il faut être bon, il faut être très bon dans ce qu'on fait. Voilà. Il faut être le meilleur dans ce qu'on fait. Un chrétien, c'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Hein. Il faut être très, très bon dans ce qu'on fait. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment important qu'on puisse être absolument pas accusé de d'être feignant, d'avoir des murmures et tout ça, il faut essayer de gommer et puis avoir le cœur en joie et avancer avec le Seigneur. C'est vraiment ce qui me paraît fondamental.
Eh bien, pour illuminer tous ces propos, je serais heureux d'entendre deux exemples qui se détachent, oui, Singulièrement, où il y a un éclat de la perle précieuse dedans.
Alors, Je peux vous raconter le premier parce que c'était enfin, premier. Il y en a beaucoup d'autres avant, mais un assez significatif que j'aime bien raconter parce que c'était au tout début de ma vie professionnelle où je travaillais dans un cabinet de conseil, je vous l'ai dit tout à l'heure, et puis j'ai fait une énorme gourde parce que j'ai envoyé tous les salaires d'une très très grosse multinationale à son concurrent direct et inversement, donc les salaires du DG du président aux collaborateurs, c'était des listings qui faisaient 20 cm d'épaisseur et voilà, donc il y avait peut-être 10 000 salaires d'un côté, 10 000 de l'autre, avec tous les noms, les âges, enfin tout ça, quoi. Et donc, mon boss m'a convoqué, et puis il me dit, écoute, avec une erreur professionnelle comme ça, je suis désolé, mais je vais être obligé de te licencier. Et donc, il me donne rendez-vous pour 4 jours après, pour un mardi. Nous étions un jeudi. Et le vendredi, je partais en déplacement professionnel en province. Et là, je suis rentré dans une église en disant, Seigneur, entre 1 h 02, on me dit sans arrêt que tu es notre sauveur. Ben voilà, tu as une belle occasion de me montrer que tu es vraiment mon sauveur. Et dans cette église, entre 1 h 02, il n'y avait personne. C'était à Saint-Patrice, à Rouen. Et il y avait une image pieuse ou un crucifix. Je ne me rappelle plus bien ce qui était voilà, sur ce mur. Mais ce dont je me souviens très bien, c'est qu'il y a eu une sorte de petite flamme qui venait m'habiter dans mon cœur, venant de cette image et qui me disait, enfin, avec une parole intéressante, qui me disait « Jacques, n'aie crainte, je suis là avec toi, Jacques, n'aie crainte, je suis là avec toi », et qui se répétait. Et donc j'ai vécu là un moment absolument extraordinaire de rencontre personnelle qui m'a profondément bouleversé, touché, apaisé, qui a mis de la joie dans mon cœur, de la joie dans ma vie. Je suis allé à mon rendez-vous l'après-midi, j'étais hyper paisible. Et puis quand je suis revenu à cet entretien du mardi auprès de mon patron, j'entre dans le bureau, j'étais voilà, la tête basse, un peu inquiet de ce qui allait se passer. Puis là, mon boss me dit « Écoute, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai décidé de te garder. Voilà. » Et donc là, dans mon cœur, j'ai dit « Merci Seigneur ». Pour moi, c'était complètement clair. Et donc j'ai passé 3 ans de plus dans cette entreprise où j'étais très content. Voilà un premier exemple que je peux vous citer comme ça. Alors après, je peux vous en raconter d'autres, bien entendu. Mais ensuite, il faut que les auditeurs le croient parce qu'il y en a tellement que... On a quelquefois comme ça. Alors, ça, comme vous parlez de croix, ça va aussi avec la croix, hein, ces petites grâces. Après, j'en ai une autre qui est un peu plus, qui est amusante. C'est un jour, j'ai changé de patron. Et puis mes locaux étaient dans mon bureau était dans une autre rue des bureaux de mon patron, enfin de mon nouveau patron. Et donc je suis convoqué par ce nouveau patron pour un premier entretien de prise de connaissance. Et donc je suis descendu dans la rue avec mon dossier, avec toutes mes idées pour vendre ce que j'avais fait, pour montrer que j'étais le meilleur. Et donc j'étais vraiment très gonflé à bloc. Et puis je passe devant une vitrine sur laquelle il y avait marqué « Changement de direction, tout doit disparaître ». Alors là, je me suis dit, Seigneur, il y a peut-être des milliers de personnes qui sont passées devant cette vitrine aujourd'hui, mais moi, je sais que tu me parles là. Donc, changement de direction, tout doit disparaître. J'ai changé tout à fait mon regard sur les choses et je suis rentré dans le bureau. Mais avant de rentrer dans le bureau, j'ai dit à Saint-Joseph, bon, tu rentres, mon ange gardien, j'ai fait rentrer tout le monde dans le bureau. Et puis, ça n'a pas loupé. Le boss me dit, écoutez, monsieur de Scorail, ça fait 7 ans que vous êtes là où vous êtes. Je connais vos valeurs, donc vous avez 6 mois pour quitter l'entreprise ou pour trouver un autre job ailleurs dans la boîte. Mais moi, je ne vous veux plus dans ma direction. Et donc, j'avais été prévenu, donc merci Seigneur. Et alors, ce qui était assez fabuleux, c'est que j'étais dans le bureau de la direction générale. Et donc, j'ai quitté ce bureau pour me rendre dans une chapelle qui était à côté de mon lieu de travail, en disant, j'allais vider mon sac auprès du Seigneur. Et là, j'étais happé par un autre directeur qui me dit, bon, je sais que le boss, le DRH, là, il veut ta peau. On n'est pas tout à fait de la même sensibilité, parce que moi, je suis Saint-Nicolas de Chardonnay. Mais entre chrétiens, je me dois de t'aider. Et donc, il m'a proposé un poste dans sa direction. Donc, dans la même journée, j'étais, entre guillemets, licencié d'un endroit pour être repris dans un autre. Et tout ça par la grâce du Seigneur qui m'avait prévenu avant. Alléluia.
Alors, heureux comme un chrétien au travail, oui, c'est possible avec la grâce du Seigneur.
Merci Olivier.
Merci à vous Jacques de Scorail. Nous sommes partenaires du congrès mission et je crois savoir que vous allez intervenir aussi dans ce congrès mission à Paris.
Oui, demain j'anime 2 ateliers, un justement sur l'atelier de Saint-Joseph que j'aime beaucoup méditer et puis l'autre qui va s'appeler Pentecôte pour ma vie professionnelle où on pourra reprendre des thèmes qu'on a évoqués ensemble cet après-midi.
Eh bien en tout cas pour cet après-midi et pour cet ouvrage, je rappelle, publié aux belles éditions d'Arthège, par Jacques de Scorail, heureux comme un chrétien au travail. Soyez vivement remerciés d'être venu à notre studio de Paris pour nous témoigner de tout ceci.
Merci Olivier.
Chers auditeurs, c'était notre émission Interview Témoignage. Nous étions avec Jacques de Scorail pour son livre Heureux comme un chrétien au travail aux éditions Arthège. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.